Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. Une indéniable liesse populaire qui envahit la France, championne du monde de football. Dans quelle mesure est-elle spontanée et durable? Ce sont les principales questions qui vont occuper ce journal de la mi-journée avant que les Bleus ne soient reçus tout à l'heure à l'Elysée. Nous interrogerons les liens entre football et politique macronienne avec Stéphane Robert et puis avec l'économiste Claudia Sénic. Nous tenterons de savoir si l'économie française peut capitaliser sur ce brusque pic de bonheur national brut. Auréolé du succès de son mondial, Vladimir Poutine, lui, est arrivé il y a maintenant une heure à Helsinki, où il rencontre Donald Trump pour un premier sommet en tête-à-tête. Nous rejoindrons Quentin Dickinson dans la capitale finlandaise. En Italie, le ministre d'extrême droite, Matteo Salvini, salue une victoire pour sa politique migratoire. Il a laissé accoster la nuit dernière en Sicile deux navires avec 450 migrants à bord, décryptage à Rome d'Olivier Tosseri. Avec Valérie Crova, nous reviendrons sur les nouveaux affrontements meurtriers entre opposition et forces pro-gouvernementales. Ce week-end au Nicaragua, 10 morts au moins et l'église catholique qui tentait de jouer la médiation et qui se retrouve désormais prise pour cible par les violences. Juste après ce journal, la grande table d'été en direct d'Avignon et de son festival qui explore les mythes. En deuxième partie, rencontre avec le rappeur et désormais comédien Sofiane Zermani. La grande table d'été avec Maïlys Besri à partir de 12h45. On est donc loin de la terrible retraite de Russie, oubliez la Bérézina que certains avaient promis à l'équipe de France de football. C'est bien auréolé d'un deuxième titre de champion du monde que les Bleus de Didier Deschamps rentrent de Moscou cet après-midi. Et c'est une foule digne de celle de 1998 qui devrait célébrer avec eux cette victoire. Ce sera sur les Champs-Élysées à partir de 17h, avant que les joueurs et leur staff ne soient reçus au Palais de l'Élysée par un Emmanuel Macron, il faut bien le dire, qui pendant ce mondial aura joué à plein la carte du premier supporter de France. Il aura même lié une partie de son destin politique à celui sportif de l'équipe de France. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Politique et sport avec tous les soupçons de récupération qu'il peut y avoir derrière. En la matière, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron s'était impliqué très tôt dans le conditionnement de cette équipe de France de foot dont le monde entier salue aujourd'hui l'engagement au service du collectif.
Oui, Emmanuel Macron qui s'est impliqué très tôt et qui ne s'est pas cantonné à un rôle de premier supporter de l'équipe de France comme vous le disiez. Il a fait bien plus que cela en allant voir les joueurs à Clairefontaine, quelques jours avant leur départ pour la Russie, et il leur avait dit
« Une compétition est réussie quand elle est gagnée. »
Une compétition est réussie quand elle est gagnée. En disant ça, le chef de l'État avait en quelque sorte tenté de mettre un peu de pression sur les épaules des joueurs et s'était presque glissé dans le costume d'entraîneur adjoint de Didier Deschamps. Ou plutôt, c'est un peu comme si les joueurs avaient un entraîneur sportif avec Deschamps et un autre entraîneur politique, celui-là avec Macron. Et puis le chef de l'État a aussi un peu écrit l'histoire à l'avance. Déjà, il a laissé entendre que l'équipe de France pouvait gagner, alors que sur le papier, elle n'était pas favorite. Et ensuite, il leur a dit « J'irai vous voir après les quarts de finale », ce qu'il a fait. Et petit à petit, on a une équipe sportive qui est aussi devenue un peu politique et qui scande aujourd'hui.
Vive la France et vive la République !
On peut d'ailleurs faire là un parallèle avec la propre histoire d'Emmanuel Macron. Quand il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle, personne n'imaginait qu'il pouvait être élu. Il n'y avait que lui qui y croyait. Au bout du compte, c'est lui qui a gagné.
Alors Stéphane, de la soirée d'hier au stade Loujniki de Moscou, on retient en particulier une image, celle d'Emmanuel Macron dans les vestiaires avec les Bleus accompagné par un adjudant-chef de l'armée française qui avait perdu un bras et une jambe dans une attaque terroriste au Mali. On voit là la volonté d'insister sur des valeurs de dépassement, de sacrifice pour la nation, d'héroïsme républicain. Ce sont des valeurs chères là à la communication politique macronienne.
Oui, cette équipe de France s'insère complètement dans la conception macronienne de ce que doit être une société et de comment elle doit s'organiser en tant que collectivité. Dans l'idée de Macron, il faut des premiers de cordée et les joueurs sont dans leur domaine des premiers de cordée et ils doivent donner l'exemple. C'est ce qu'il leur a dit d'ailleurs hier soir dans les vestiaires. Cet exemple, vous allez me le porter. Et on voit là qu'Emmanuel Macron endosse désormais pleinement son maillot de coach politique et qu'il prend le relais en quelque sorte de Didier Deschamps. Après la séquence sportive, place à la séquence politique avec des joueurs érigés en héros d'une geste républicaine en train de s'écrire. Le président, le premier ministre, le porte-parole du gouvernement parlent souvent de ces héros qu'il faut mettre en avant. Pour autant, Emmanuel Macron entend bien ne pas trop en faire, ne pas trop lui se mettre en avant pour ne pas qu'on imagine qu'il aurait la tentation de récupérer l'événement à son profit. Du côté de l'Elysée, ce matin, on nous explique que ce sont les joueurs et eux seuls qui ont décidé de faire rimer universalité du football et universalité de la République.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture, merci à vous. On va voir à présent si cette vague de bonheur national peut avoir un impact sur notre économie. Le bonheur intérieur brut comme indicateur, est-ce que ça existe? existe vraiment? Oui, à en croire l'économiste Claudia Sénic, professeure d'économie à la Sorbonne, spécialiste de l'économie du bonheur. Elle s'est notamment penchée sur les effets des JO de Londres en 2012 sur le bien-être et l'économie des Britanniques.
C'est une question qui intéresse les économistes du bonheur depuis longtemps. D'essayer d'évaluer l'impact de ces événements sportifs sur le bonheur des populations. Donc le foot, mais aussi les Jeux Olympiques. Et on montre que effectivement, ça a un impact non négligeable. Par exemple, le fait d'avoir accueilli les Jeux Olympiques à Londres en 2012 plutôt que à Paris ou à Berlin, qui étaient les candidats, ça a vraiment eu un impact pendant toute la durée des Jeux sur la population et au-delà. Il y a une inertie, donc on identifie un impact sur un an. Là, on peut s'attendre à au moins la même durée, parce qu'en plus, pour le foot, enfin les travaux qui portent sur le foot mettent en évidence des effets beaucoup plus importants, qui passent par le sentiment, bien sûr, de fierté nationale, de cohésion, l'ensemble des interactions sociales qui ont cours pendant les événements. Et après, on sait que l'humeur, l'optimisme, le bonheur, etc., a un impact économique en termes de consommation, investissement, puisque l'investissement dépend de l'optimisme, donc des anticipations que font les entreprises, en disant si les gens sont de bonne humeur, ils vont consommer, donc ça vaut la peine d'investir. Et puis on sait que de toute façon, l'humeur et le bonheur a un impact sur toutes sortes de choses, la créativité, la capacité de négociation, la capacité de coopérer. Donc tout ça va dans le même sens.
La professeure d'économie Claudia Sénic, jointe par Hélène Fromanti. Et s'il en est un, enfin, pour qui ce mondial de football se referme sur un bilan plutôt positif, c'est bien Vladimir Poutine, le président russe, grand ordonnateur de cette Coupe du Monde, aura tenu son pari de faire oublier les critiques contre son pays et les tensions internes pour recevoir la planète football dans les meilleures conditions. Nous saluons le correspondant permanent de France Culture à Moscou. Bonjour Claude Bruyot.
Bonjour Camille.
Très peu de fausses notes, hein, il faut bien le dire, dans l'organisation de ce mondial russe. Qu'on le veuille ou non, Vladimir Poutine aura finalement réussi à maintenir sous le tapis les tensions internes à son pays.
Oui, effectivement, organisation parfaite, il n'y a pas eu d'incident du tout. On craignait, vous savez, des attentats terroristes, avec notamment en provenant du Caucase, des cellules qui auraient pu s'infiltrer avant la Coupe du Monde et agir pendant la Coupe du Monde. Il n'en a rien été, et il faut reconnaître que sur ce plan-là, la maîtrise a été totale. Après, Vladimir Poutine a su aussi s'effacer pendant la Coupe du Monde. Il était intervenu lors du premier match, le 14 juin, et lors du dernier, pour la finale, donc hier, entre les deux, eh bien, il a envoyé Dmitri Medvedev faire son office, représenter le pouvoir, le Kremlin, lors des matchs de la Sbornaïa, l'équipe nationale. Donc tout ça était parfaitement réglé. Après, évidemment, les dossiers demeurent. C'était une parenthèse enchantée, vous l'avez dit. Et là, je suis à Sheremetyevo, on est en train de replier les calicots. Sheremetyevo, c'est l'aéroport d'où est partie l'équipe de France tout à l'heure. Et on replie les calicots, on range tout. Et les guitounes, comme les appellent les supporters, où étaient les volontaires de la Coupe du Monde, ces milliers de volontaires qui étaient chargés d'accueillir les supporters, eh bien, elles sont déjà démontées dans le centre de Moscou. Ça y est, il n'y a plus rien. C'est fini. On repart comme avant. Et on va retrouver les mêmes problèmes parce que des problèmes. Il y en a eu pendant la Coupe du Monde. On en a peu parlé. Notamment la réforme des retraites qui a été lancée le jour d'ouverture du match de la Russie, le 14 juin. On a lancé les décrets de réforme des retraites avec des mesures qui sont anodines puisque les femmes qui partaient en retraite à 55 ans vont partir à 63 ans, les hommes qui partaient à 60 vont partir à 65 ans et tout ça a créé un mouvement de mécontentement qui n'a pu s'exprimer pendant la Coupe du Monde. C'était une autoroute de l'information, un rouleau compresseur sur les télévisions fédérales. Tout ça va remonter probablement en surface d'ici le mois de septembre. Et là, on verra effectivement quel a été l'impact de cette période, cette parenthèse enchantée, entre guillemets, sur l'opposition d'un côté, qui a compris qu'effectivement le public était mécontent, la majorité des gens étaient mécontents, et aussi par rapport au pouvoir, comment le pouvoir va réagir à ce mouvement de mécontentement qu'on annonce déjà pour la rentrée.
Claude Bruyot, merci beaucoup. On vous laisse à Moscou replier les guitounes, donc, et nous suivons Vladimir Poutine à Helsinki. Le président russe est arrivé tout à l'heure dans la capitale finlandaise où il rencontre pour un premier sommet en face à face Donald Trump ce midi. Les sujets de crispation ne manquent pas entre les deux présidents, l'américain et le russe, de l'Ukraine à la Syrie et à l'Iran, en passant par les taxes douanières et l'ombre d'une intoxication médiatique russe sur la politique américaine. Nous retrouvons notre envoyé spécial Quentin Dickin en direct d'Helsinki. Bonjour Quentin.
Bonjour Camille, bonjour à toutes et à tous.
Alors comme à son habitude, hein, Quentin, Donald Trump n'a pas franchement désamorcé les tensions diplomatiques avec ses dernières déclarations à la presse ce matin.
Oui, dans ces déclarations, on a du mal ce matin à faire la part de la provocation, de la maladresse et de l'ignorance. M. Trump dit et redit que les relations de son pays avec la Russie n'ont jamais été aussi mauvaises. La faute, dit-il, à des décennies de stupidité de la part de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Évidemment, on voit bien là la tentation du règlement de compte en politique intérieure américaine. Mais ce faisant, il affaiblit sa propre position de négociation aujourd'hui, puisque s'il veut améliorer lesdites relations, il ne peut qu'offrir l'une ou l'autre concession à son interlocuteur russe, ce que redoutent particulièrement les Européens et une bonne partie des hauts fonctionnaires américains eux-mêmes, car M. Trump a exigé un tête-à-tête avec Vladimir Poutine, auquel n'assisteront que leurs interprètes respectifs.
Quentin, au moment où Donald Trump rencontre donc Vladimir Poutine, le président du Conseil européen Donald Tusk est lui à Pékin pour le 20e sommet Union européenne-Chine. Là, c'est deux puissances qui finalement se retrouvent poussées dans les bras l'une de l'autre par la politique commerciale très agressive que leur oppose le président américain.
C'est exactement cela, et cela se situe en dehors de toute logique économique, car les déséquilibres actuels du commerce international ne sont pas le fait de l'Union européenne, alors que celle-ci a été la première à faire l'objet de Washington de mesures inamicales par l'imposition de taxes à l'importation, vous en parliez, aux États-Unis de l'acier et de l'aluminium de l'UE. Ces déséquilibres ont pour origine principale, ce n'est pas un secret, la surproduction industrielle de la Chine. Et en raisonnant à froid, ce qui n'est pas la tendance du moment, c'est vrai, l'alliance stratégique aurait plutôt dû se forger entre Nord-Américains et Européens ensemble contre Pékin. Or, vous le disiez, c'est tout le contraire qui se déroule sous nos yeux. C'est, dit-on dans les milieux européens et canadiens, comme s'il commençait à se constituer une espèce de ligue timide pour l'instant des pays raisonnable contre l'imprévisible M. Trump.
Quentin Dickinson, merci à vous. On suivra la suite de ce sommet russo-américain depuis Helsinki, donc dans les éditions de la fin de journée. Deux navires militaires à présent qui accostent dans le port sicilien de Pozzallo et l'Italie qui a donc finalement consenti à laisser débarquer sur son sol 450 migrants des naufragés de la Méditerranée qui avaient été secourus au large de la Libye il y a 4 jours mais que Rome refusait de prendre en charge et voulait renvoyer vers Malte. Finalement, donc, tout le monde a pu poser le pied sur le sol européen en Sicile. Et à première vue, voilà qui pourrait sembler être un échec pour le leader d'extrême droite et ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini. Mais en fait, ce dernier salue une victoire politique. Alors, pour analyser ça, nous sommes en ligne depuis Rome avec Olivier Tosseri. Olivier, de quelle nature peut être cette victoire, si elle en est bien une, que revendique Matteo Salvini ?
Eh bien, Matteo Salvini, à l'unisson avec le président du Conseil, Giuseppe Conte, déclare que pour la première fois, avec ce débarquement, on peut dire que les migrants ont débarqué en Europe et pas en Italie. Le ministre italien de l'Intérieur maintient sa ligne dure en Méditerranée. Il appelle ça le modèle Lifeline, du nom du navire d'une ONG allemande. Fin juin, il lui interdit l'accès aux ports italiens et le laisse en mer près d'une semaine avec à bord 239 migrants jusqu'à ce qu'un accord de répartition soit trouvé avec d'autres pays européens. C'est ce qui donc est arrivé avec ces migrants, ces 450 migrants ce week-end. Mais ces solutions au cas par cas et ces épreuves de force irritent de plus en plus les partenaires de l'Italie. Giuseppe Conte, le président du Conseil, essaie de négocier des accords bilatéraux, mais il a déjà reçu une fin de non-recevoir de la part des pays de l'Est, pourtant proches de Matteo Salvini. Ce dernier n'entend pas changer de stratégie, il ne faut pas montrer de faiblesse, ne cesse-t-il de me répéter, de marteler. L'Italie a fini d'être le camp de réfugiés du monde. La Méditerranée, elle, continue à être un cimetière depuis sa décision de fermer les ports de la péninsule aux navires des ONG. Le nombre de victimes a doublé, s'élevant depuis le début de l'année à 600 personnes.
Olivier Tosseri, merci à vous. En direct de Rome, quand le messager de paix est lui-même pris pour cible, nous sommes au Nicaragua à présent, où la répression de la contestation politique hostile au président Ortega a encore tué au moins 10 personnes hier. Les forces gouvernementales s'en sont prises aux opposants dans plusieurs villes du sud du pays. Mais ce qui interroge dans ces affrontements qui durent depuis maintenant 3 mois, c'est que désormais l'église catholique nicaraguayenne, qui était en position de médiateur jusque-là, se retrouve prise à partie dans les violences. Valérie,
oui, pour preuve, l'attaque dont a été victime hier Monseigneur Abelardo Mata, l'évêque d'Esteli, une ville du nord-ouest du Nicaragua, se rendait à Masaya, devenu l'épicentre du mouvement de protestation, quand son véhicule a été pris pour cible par des paramilitaires qui ont ouvert le feu. Monseigneur Mata n'a pas été blessé. Il est l'un des 5 signataires qui assurent une médiation entre les autorités et les manifestants anti-Ortega. Son discours est ouvertement critique à l'égard du gouvernement. Dans le passé, il a présidé l'association pour les droits droits humains du Nicaragua. Un autre homme d'église a été récemment pris à partie, c'est Monseigneur Brenes, le cardinal de Managua, qui préside la conférence épiscopale du pays. C'est lui qui a mené la mission d'évacuation des étudiants qui s'étaient retranchés dans une église vendredi dernier, avant que l'édifice religieux ne soit attaqué par des paramilitaires. Grâce à l'intervention du cardinal Brenes, les étudiants ont pu sortir pour aller se réfugier dans les jardins de la cathédrale de Managua. Eh bien, il y a quelques jours, le cardinal Brenes, accompagné par d'autres évêques, a été malmené par des partisans du président Ortega qui leur reprochent d'être trop proches des manifestants. Comme l'opposition, l'Église catholique a effectivement appelé Daniel Ortega à organiser des élections générales anticipées, mais l'ex-guérillero sandiniste refuse d'avancer la date des élections. Alors dans son homélie hier, l'évêque auxiliaire de Managua a laissé entendre que la conférence épiscopale allait réévaluer la poursuite de sa médiation entreprise en juin. Nous ne pouvons pas continuer à nous asseoir avec les représentants d'un gouvernement qui ment et qui continue à attaquer et à massacrer la population, a dit Monseigneur Bez, autre figure de l'église du Nicaragua.
Merci beaucoup Valérie Crova. Le temps de cet après-midi franchement instable avec des orages et des fortes pluies qui s'invitent sur les trois quarts du pays du sud-ouest au Hauts-de-France. Les températures sont globalement comprises entre 25 et 30 degrés. C'est Emmanuel Faucillon qui réalisait cette édition à 18h. Stanislas Vazac pour le prochain journal.